32. Tous trois restèrent dans la chambre de Seldon bien après l'heure du déjeuner. Durant tout ce temps, Harry et Dorse discutèrent tranquillement de sujets anodins, mais Hermine conserva un silence quasi total. Il resta assis, très raide, mangea peu, sans jamais se départir de son air grave, calme et réservé, qui, jugea Seldon, le faisait paraître plus âgé. Seldon l'imaginait en train de réviser mentalement l'immense géographie de Trantor à la recherche de l'endroit idéal. Apparemment, la tâche n'avait rien d'aisé. Helicon était d'un à 2% plus vaste que Trantor et avait un océan plus petit. La surface des terres émergées était peut-être de 10% plus grande. Mais la population était faible, la planète n'étant parsemée que de quelques cités. Trantor, en revanche, était une unique cité. Helicon était divisé en 20 secteurs administratifs, mais Trantor en possédait plus de 800, chacun d'eux formant un complexe de subdivisions. Finalement, en désespoir de cause, Seldon remarqua « Peut-être vaudrait-il mieux, Hermine, choisir le candidat le plus bienveillant à l'égard de mes capacités supposées, me confier à sa garde et compter sur lui pour me défendre contre les autres ?» Hermine leva la tête et répondit avec le plus grand sérieux. « Ce n'est pas nécessaire. Je connais le candidat le plus bienveillant et il vous détient déjà. » Seldon sourit. « Vous placeriez-vous au même niveau que le maire de Cannes et l'empereur de toute la galaxie ?»« Pour la position, non. Mais pour le désir de vous contrôler, je me pose en rival. » »« Ce que vous nommez et tous ceux qui me viennent à l'esprit veulent vous avoir pour renforcer leur pouvoir et leur richesse personnelle. » Alors que je ne nourris pas d'autre ambition que le bien de la galaxie. « Je soupçonne, » dit Seldon, « que chacun de vos compétiteurs, si on leur posait la question, soutiendrait qu'il ne pense lui aussi qu'au bien de la galaxie. J'en suis certain, » admit Hermine. « Mais pour l'instant, le seul que vous ayez rencontré parmi les compétiteurs, comme vous les appelez, c'est l'Empereur, et tout ce qui l'intéresse, c'est que vous avanciez des prédictions romancées susceptibles de stabiliser sa dynastie. Je ne vous demande rien de tel. Je vous demande simplement de perfectionner votre technique psychohistorique afin qu'on puisse élaborer des prédictions mathématiquement valides, même si elles ne sont que statistiques. Vrai ? Du moins jusqu'à présent ? Ajouta Seldon avec un demi-sourire. Par conséquent, je ferai aussi bien de demander comment avancent vos travaux. « Faites-vous des progrès ?» Seldon ne savait pas s'il devait rire ou pester. Après un temps d'arrêt, il ne fit ni l'un ni l'autre, mais réussit à parler avec calme. « Des progrès ? En moins de 2 mois ?» Hermine. « Il s'agit d'une tâche qui pourrait bien prendre toute mon existence et celle d'une douzaine de successeurs, et malgré tout déboucher sur un échec. » Je ne parle pas de quelque chose d'aussi radical et définitif qu'une solution, ou même d'aussi riche d'espoir qu'un début de solution. Vous n'avez cessé de souligner qu'une psychohistoire opérationnelle était possible, mais inapplicable. Je vous demande seulement s'il vous semble à présent qu'il y ait le moindre espoir de la rendre applicable. Franchement ? Non. Excusez-moi, intervint Dorse. Je ne suis pas mathématicienne. Et j'espère ne pas poser une question stupide. Comment pouvez-vous savoir qu'une chose est à la fois possible et inapplicable ? Je vous ai entendu dire qu'en théorie, vous pourriez rencontrer en personne tous les habitants de l'Empire, mais que c'était irréalisable, faute de vivre assez longtemps pour venir à bout de cette tâche. Mais comment pouvez-vous affirmer que la psychohistoire pose le même type de problème ?
Seldon la considéra avec une certaine incrédulité.
Vous voulez vraiment que je vous explique ça ?
« Oui ?»
dit-elle en hochant vigoureusement la tête au point d'en faire vibrer sa chevelure bouclée.
« Le fait est, » ajouta Hermine, « que je le voudrais aussi. »«
Sans recourir aux mathématiques ?» demanda Seldon avec l'ombre d'un sourire.
« Je vous en prie, » insista Hermine.
« Eh bien... » Il réfléchit quelques instants pour choisir une méthode de présentation, puis il reprit. Si vous voulez comprendre un aspect quelconque de l'univers, il peut être utile de le simplifier le plus possible en ne tenant compte que des seules propriétés et caractéristiques essentielles à sa compréhension. Si vous voulez déterminer comment tombe un objet, vous ne vous préoccupez pas de savoir s'il est vieux ou neuf, rouge ou vert, s'il a une odeur ou pas. Vous éliminez ces détails et évitez par là même de compliquer inutilement le problème. Cette simplification, vous pouvez l'appeler modèle ou simulation et la présenter sous forme graphique sur un écran d'ordinateur ou sous forme de relations mathématiques. Si vous considérez la théorie primitive de la gravitation non relativiste, Dorse l'interrompit aussitôt. Vous avez promis qu'il n'y aurait pas de mathématiques. N'essayez pas de glisser une théorie sous prétexte qu'elle est primitive. Non, non. Je veux dire primitive simplement pour indiquer qu'elle est connue depuis que nous avons des archives, que sa découverte se noie dans les brumes de l'Antiquité au même titre que celle du feu ou de la roue. Quoi qu'il en soit, les équations de cette théorie de la gravitation contiennent une description des mouvements d'un système planétaire, d'une étoile double, des marées et de bien d'autres phénomènes. En appliquant ces équations, on peut même élaborer une simulation graphique et avoir une planète en orbite autour d'une étoile ou bien deux étoiles en orbite réciproque sur un écran bidimensionnel, voire élaborer des systèmes encore plus compliqués dans un hologramme à trois dimensions. De telles simulations simplifiées rendent la compréhension d'un phénomène bien plus facile que s'il fallait l'étudier directement. En fait, sans les équations gravitationnelles, notre connaissance des mouvements planétaires et de la mécanique céleste en général serait réduite à la portion congrue. Maintenant, quand on veut en savoir plus sur un phénomène, ou quand il se complexifie, on a besoin d'équations de plus en plus élaborées, d'une programmation de plus en plus détaillée. Et l'on se retrouve avec une simulation sur ordinateur de plus en plus compliquée. Ne peut-on fabriquer une simulation de la simulation? Demanda Eumin. Ça permettrait de descendre d'un degré. Dans ce cas, vous seriez contraint d'éliminer certaines caractéristiques que vous tenez à inclure, si bien que votre simulation deviendrait sans intérêt. La PPSP, entendez la plus petite simulation possible, se complexifie plus vite que l'objet qu'elle simule, et au bout du compte, elle finit par rattraper le phénomène. Ainsi a-t-on établi depuis des millénaires que l'univers pris dans son entier, dans toute sa complexité, ne pouvait être représenté par une simulation plus petite que lui-même. En d'autres termes, vous ne pouvez pas obtenir une image de l'univers dans son ensemble à moins de l'étudier entièrement. On a également démontré que si l'on tente d'y substituer des simulations d'une partie de l'univers, puis d'une autre partie, d'une autre encore et ainsi de suite avec l'intention de les réunir ensuite pour en composer une image globale, on s'apercevra qu'il existe un nombre infini de ces simulations partielles. Il faudra en conséquence un temps infini pour comprendre l'univers dans son ensemble, ce qui n'est qu'une autre façon de dire qu'il est impossible d'appréhender toute la connaissance qui existe. « Jusque-là, je vous suis, » fit Dorse, non sans surprise. « Alors, nous savons que certaines choses comparativement plus simples sont faciles à simuler, et qu'à mesure qu'elles gagnent en complexité, la tâche gagne en difficulté jusqu'au moment où toute simulation devient impossible. Mais à quel niveau de complexité la simulation cesse-t-elle d'être possible? Eh bien, ce que j'ai démontré, à l'aide d'une technique mathématique inventée au siècle dernier, et à peine utilisable, même avec un ordinateur énorme et ultra rapide, c'est que notre société galactique se situe juste à cette limite. Elle peut effectivement être représentée par une simulation plus simple qu'elle-même. Et j'ai poursuivi en montrant que cela déboucherait sur la capacité de prédire les événements futurs de manière statistique, c'est-à-dire en établissant la probabilité de plusieurs ensembles d'événements plutôt que de prédire carrément que tel événement précis aura bien lieu. « En ce cas, » dit Eumin, « puisque vous pouvez simuler efficacement la société galactique, il suffit de s'y mettre. » Pourquoi est-ce irréalisable? Tout ce que j'ai prouvé pour l'instant, c'est qu'on n'a pas besoin d'un temps infini pour comprendre la société galactique. Mais s'il y faut 1 milliard d'années, cela reste inapplicable. Pour nous, ce sera rigoureusement la même chose qu'un temps infini. Il faudrait tout ce temps-là
un milliard d'années?
Je n'ai pas été en mesure de calculer le temps exact, mais je soupçonne fort que cela prendra au moins un milliard d'années, c'est pourquoi j'ai suggéré cet ordre de grandeur. Mais vous ne savez pas vraiment. J'ai essayé de le calculer. Sans succès? Sans succès. La bibliothèque universitaire ne peut pas vous aider? Demanda Eumine en jetant un regard à Dorse. Seldon secoua lentement la tête. Absolument pas.
Dorse ne peut pas vous aider.
L'intéressé soupira.
Je ne connais rien à la question, Chatter. Je ne puis que suggérer des méthodes de recherche. Si Harry cherche et ne trouve pas, je suis impuissante.
Eumine se leva. En ce cas, il ne sert pas à grand-chose de rester ici à l'université et je dois absolument trouver un autre endroit où vous cacher.
Seldon se pencha pour lui toucher le bras.
Malgré tout, j'ai une idée.
Eumine le fixa avec un discret plissement de paupières qui pouvait trahir la surprise ou le soupçon.
Quand l'avez-vous eu? À l'instant?
Non.
Elle me trottait dans la tête depuis plusieurs jours déjà, avant même que je monte sur la couverture. Cette petite expérience l'a momentanément éclipsée, mais votre question sur la bibliothèque me l'a remise en mémoire.
Eumine se rassit.
Dites-moi votre idée si elle n'est pas totalement imprégnée de mathématiques.
Pas la moindre trace de mathématiques.
Tout simplement, les articles d'histoire de la bibliothèque m'ont rappelé que la société galactique était moins compliquée autrefois.
Il y a 12 000 ans, quand l'Empire était en voie d'instauration, la galaxie ne comprenait qu'environ 10 millions de mondes habités. Il y a 20 000 ans, les royaumes pré-impériaux ne comprenaient en tout et pour tout qu'une dizaine de milliers de planètes. Encore plus loin dans le passé. Qui sait à quoi la société a pu se réduire? Peut-être à une planète unique, comme dans les légendes que vous avez vous-même mentionnées, Eumine.
Et vous pensez que vous pourriez être en mesure de bâtir la psychohistoire à partir d'une société galactique plus simple?
Oui.
Il me semble que je pourrais être en mesure de le faire.
Mais alors,
intervint Dorse avec un soudain enthousiasme,
si vous mettiez au point la psychohistoire pour une société du passé de taille plus réduite, et si vous pouviez, à partir d'une étude de la situation pré-impériale, prédire les événements situés 1000 ans après la formation de l'Empire, vous pourriez alors comparer vos résultats avec la réalité de cette époque et en vérifier l'exactitude.
Considérant que vous connaissez à l'avance la situation en l'an 1000 de l'ère galactique, remarqua Eumine froidement, le test ne serait guère valable. Vous seriez inconsciemment influencé par vos connaissances et auriez tendance à choisir pour vos équations des valeurs propices à vous fournir ce que vous sauriez être la solution.
« Je ne le pense pas, » dit Dorse. « Nous ne connaissons pas très bien l'an 1000 de l'ère galactique. Il faudrait faire des recherches. Après tout, cela remonte à 11 000 ans. »
Le visage de Seldon était l'image du désarroi.
« Que voulez-vous dire? Nous ne connaissons pas très bien la situation en l'an 1000 de l'ère galactique. Il y avait déjà des ordinateurs à l'époque, non ?»«
Bien sûr. »
Et des unités de mémoire de masse, des enregistrements audio et vidéo. Nous devrions posséder toutes les archives de 1000 de l'ère galactique comme nous possédons celles de cette année 12 020 de l'ère galactique.
En théorie, oui, mais en pratique...
Eh bien, vous savez, Harry, c'est précisément ce que vous ne cessez de répéter. Il est possible d'avoir toutes les archives de l'an 1000 de l'ère galactique, mais il est irréalisable d'espérer les consulter toutes.
Oui, mais... Ce que je ne cesse de répéter, Dorse, s'applique aux démonstrations mathématiques. Je n'en vois pas l'application aux archives historiques.
Les archives n'ont pas une longévité illimitée, expliqua Dorse sur la défensive. Les banques de mémoire peuvent être détruites ou effacées à la suite d'un conflit ou simplement se détériorer avec le temps.
Tout bit de mémoire, tout élément d'archive qui n'est pas rafraîchi de temps en temps, finit par se noyer dans un bruit de fond croissant. On dit qu'un bon tiers des enregistrements de la bibliothèque impériale sont devenus illisibles, mais la tradition empêche de les retirer.
D'autres bibliothèques sont moins liées par la coutume. À celle de l'université de Stirling, nous faisons le ménage dans les archives tous les 10 ans.
Naturellement, les archives souvent citées et fréquemment dupliquées sur divers mondes et dans diverses bibliothèques gouvernementales ou privées restent exploitables durant des millénaires, si bien qu'une bonne partie des points essentiels de l'histoire galactique reste connue.
même s'ils ont eu lieu à l'époque pré-impériale. Toutefois, plus vous remontez dans le temps, moins on en a conservé.
« Je n'arrive pas à le croire, » dit Seldon. « J'aurais imaginé qu'on effectuait de nouvelles copies de chaque enregistrement en danger d'altération. Comment pouvez-vous laisser disparaître ainsi le savoir ?»«
Tout savoir non désiré est un savoir inutile. » Est-ce que vous imaginez le temps, les efforts, l'énergie dépensée à rafraîchir en permanence des données inutilisées? Et ce gâchis ne ferait que s'amplifier en proportion du temps écoulé.
Vous devez quand même bien envisager que quelqu'un, à un moment quelconque, puisse avoir besoin des données dont on se sera débarrassé à la légère.
Un article particulier peut n'être demandé qu'une fois tous les 1000 ans. Le sauver uniquement dans cette éventualité n'est pas rentable. Même dans le domaine de la science. Vous avez parlé des équations gravitationnelles primitives et précisé qu'elles étaient primitives parce que leur découverte se perdait dans les brumes de l'Antiquité. Et pourquoi donc? Est-ce que, par hasard, vous autres mathématiciens et scientifiques ne sauvegarderiez pas toutes les données, toutes les informations depuis les brumes des temps immémoriaux où ces équations furent découvertes?
Seldon grommela. Sans chercher à répondre.
« Eh bien, » fit-il se tournant vers Eumine, « autant pour moi et mon idée. »
À mesure que l'on se penche plus loin dans le passé et que la société se réduit en taille, la probabilité d'existence d'une psychohistoire opérationnelle s'accroît. Mais dans le même temps, la quantité de connaissances disponibles se réduit proportionnellement plus vite, de sorte que cette même probabilité de psychohistoire diminue.
Et le moins l'emportant sur le plus.
Certes, il reste le secteur de Mycogène,
fit Dorse songeuse.
Eumine leva brusquement la tête.
Mais oui. Et ce serait la cachette idéale pour Seldon. J'aurais dû y penser moi-même.
Le secteur de Mycogène? Répéta Harry, le regard allant de l'un à l'autre. Qu'est-ce que le secteur de Mycogène? Et où se trouve-t-il?
Harry, je vous en prie. Je vous le dirai plus tard. Pour l'heure, j'ai des préparatifs à faire. Vous partez ce soir.